Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. Et prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric. Réalisation Boris, Daniel Chino. Boris Pino est à côté de moi et il surveille déjà le fil Twitter de cette émission pour laquelle sont réunis Raphaël Léris, Grégoire Le Ménager et Laurent Nunez à notre programme. Une émission spéciale qui revient sur quelques-uns, les plus importants peut-être, des prix littéraires de ces derniers jours. Nous allons donc parler de L'Ordre du Jour, d'Éric Vuillard chez Actes Sud, prix Goncourt, La Disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez chez Grasset, prix Renaudot, La Serpe de Philippe Génada chez Julliard, prix Fémina, et Tiens ferme ta couronne de Yannick Hennel chez Gallimard, prix Médicis. Il y aura en fin d'émission, bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour voir l'un des films de la rétrospective Henri-Georges Clouzot, Mystère Clouzot, en version restaurée actuellement en salle. À tout seigneur, tout honneur, ouvrant avec le prix Goncourt décerné au livre d'Éric Vuillard, L'Ordre du Jour, publié chez Actes Sud. Nous avions parlé de ce livre lors de sa parution le 5 mai dernier avec Daniel Martin, que l'on salue, Laurent Nunez ici présent. Ce livre succédait, fait rare, à un précédent 14 juillet qui était sorti en septembre 2016. Bien lui en a pris. Petit livre, par sa taille, est-il grand selon vous? Grégoire Le Ménager qui est encore plongé dedans peut-être? Vous êtes comme moi un fan de Vuillard.
Oui, oui, mais du coup je suis occupé à le relire.
Non, parce que moi, ce qui prend pas un temps infini par ailleurs.
Ça prend pas un temps infini et d'ailleurs ça se relit très bien. Enfin, moi, ouais. je l'avais lu quand il est au mois de mai, quand il est sorti là. De la même façon que j'ai lu à peu près tous les livres de Vuillard depuis plusieurs années. Et non, moi je suis ravi qu'il ait le prix Goncourt, j'y croyais absolument pas, pour plein de raisons. Mais je suis ravi, parce que ça fait des années que je pense que c'est vraiment un des écrivains les plus intéressants de sa génération. Je trouve qu'il a inventé quelque chose dans cette façon qu'il a de zoomer sur des détails de l'histoire, de le faire avec une maîtrise stylistique que moi je trouve vraiment remarquable, avec une forme d'ironie très corrosive, avec quelquefois aussi des élans lyriques un peu inattendus mais qui sont très bridés tout de suite après, et tout ça avec un point de vue qui moi me plaît pas mal, qui pourrait friser l'anachronisme, mais pas tant que ça, qui est vraiment un point de vue très contemporain, je trouve, sur des événements du passé, qui nous raconte l'histoire de Buffalo Bill ou du partage de l'Afrique à la fin du 19e, comme dans Congo, ou qui nous raconte, comme là, l'annexion de l'Autriche par Hitler. Il fait ça avec vraiment un point de vue du 21e siècle. Et voilà, avec sans doute des convictions idéologiques, pour employer un grand mot, qui moi me déplaise pas. Il a une façon de gratter comme ça la mauvaise conscience de l'Occident qui me plaît bien. Et si je voulais vraiment résumer, je trouve que c'est vraiment un vraiment, je pense que c'est un vrai écrivain de gauche. Je pense qu'il le prendra pas comme une insulte, mais qui écrit comme un écrivain de droite.
je trouve qu'il y a quelque chose
dans son style qui claque un peu comme du Paul Morand, quoi. Enfin, voilà, c'est donc. Là aussi, j'espère qu'il le prendra pas mal. Et puis, je m'en fiche, après tout, tant
oui,
pis.
Vous êtes là pour dire ce que vous pensez, vous, en l'occurrence. Donc, c'est ça qui nous importe ce soir.
Je trouve que c'est vraiment un très bel écrivain. Oui.
Conviction partagée par Raphaël Léris.
Très grand écrivain, oui. J'en avais été particulièrement convaincue par Tristesse de la Terre, qui était paru chez Actes Sud en 2014. Qui racontait la manière dont le cinéma hollywoodien, en tout cas toute la culture américaine, avait planqué un génocide par le spectacle, voilà, qui était pour moi un très grand texte. Et donc cet ordre du jour, je l'avais lu en mai, il m'avait beaucoup plu et beaucoup travaillé après, ce qui est toujours un plutôt bon signe. Et ouais. Comme Grégoire, je n'avais aucune espèce de foi dans le fait qu'il puisse avoir le Goncourt. Comme tous les goncourologues, je me suis trompée, parce que c'est quand même un grand principe du goncourologue, c'est qu'il se plante. Et c'est un très beau prix pour un très beau livre. Après, voilà, ce que disait Grégoire, je le partage complètement. Je trouve que c'est d'une intelligence du montage, en fait, ce que je trouve sidérant. Il y a la densité de ce texte et la manière dont il monte les faits entre eux pour créer, avec en 160 pages, un livre d'une portée immense, il me semble.
Bon, Laurent Nunez, alors, vous allez reprendre le verbatim de ce que vous avez dit au mois de mai ou est-ce que vous nous offrez une variante
ce
soir ? Non,
je ne me fouille même plus. J'avais dit que j'avais aimé, donc ça, je ne vais pas le changer.
Quoi. Ouais.
C'est de la même manière que, enfin, c'est exactement comme mes deux confrères. Je pensais pas du tout que Vuillard pouvait l'emporter, parce que c'était un peu de court quand même comme texte, parce que c'était sorti au mois de mai. Il était repêché.
Court dans la pagination, encore une fois.
Oui, voilà. Ah oui, complètement, bien sûr.
c'est vraiment pas court comme texte. Enfin, j'y reviendrai.
C'est sorti au mois de mai, donc ça a été repêché de la rentrée littéraire, et puis parce que c'était publié par Actes Sud, et donc on pouvait craindre une sorte de pudeur excessive et malhonnête de la part des jurés, puisque la ministre de la Culture avait été éditrice de cette maison. Fort heureusement, cette pudeur a été oubliée et ils ont sélectionné un texte qui n'est pas le meilleur de Vuillard, mais ça c'est aussi le propre du Goncourt. Pour moi, c'est plutôt Congo, qui, en 2012, je pense, qui était le premier que j'avais lu de lui, qui m'avait montré vraiment son talent. Il y a dans l'ordre du jour, oui, une pudeur dans les moyens qui est très belle. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui domine complètement son écriture et qui n'en fait pas des tonnes pour dire des choses terrifiantes, mais terrifiantes de bêtises. Ces administrateurs, ces hommes d'affaires qui se réunissent et qui cèdent devant les hurlements d'un homme, qui sont prêts à tout par lâcheté simple. Voilà, il en fait, il transforme pas ça en une sorte de carnaval excessif. Ça devient un carnaval, ça c'est vrai. Mais voilà, il y a une économie de moyens qui est vraiment ce qui m'a beaucoup plu.
Bon, alors moi je suis conquis par Vuillard depuis Conquistador, j'étais en train de rechercher la date, c'était donc 2009, qui est à peu près l'opposé formellement de l'ordre du jour, preuve s'il en était qu'il a un grand talent d'écrivain, parce que le Conquistador c'était un roman fleuve, un roman monde absolument débordant sur la conquête, et je mets beaucoup de guillemets, du Pérou, par les conquistadors, donc, et les massacres absolus auxquels ils se sont livrés. Génocide, le mot n'est pas trop fort, c'était vraiment une épopée sanglante et Vuillard l'a fouillé vraiment son sujet au plus précis, au plus profond. Et d'une certaine façon, l'ordre du jour fait de même, mais au scalpel. Enfin, chaque détail fait sens ici. C'est ça qui est très, très impressionnant dans son écriture et très puissant. Et c'est vrai que c'est un texte qu'on peut reprendre, et même j'encourage vivement à lire deux fois de fait, parce qu'on n'en aura pas tout à fait la même lecture. Bon, c'est vrai pour la plupart des bons livres, cela dit. Les mauvais, non. Généralement, on a toujours le même texte sous les yeux. On n'y peut rien. Celui-là gagne en profondeur peut-être à chaque passage. Hein. Il faudrait peut-être que je lise donc une troisième fois. Ce qui m'a amusé, c'est que Conquistador, en son temps, avait eu un prix magnifique. Je ne sais pas s'il existe encore, qui était le prix de l'Inaperçu, le roman dont personne n'avait parlé. Donc on est 8 ans plus tard, il a le Goncourt. Je trouve que c'est absolument... Non, la semaine a quand même très très bien commencé, on peut dire ça, la goncourologue Raphaël Léris.
Oui, aussi certaine comme... qu'une astrologue.
Non, mais quand ça commence comme ça, on se dit que tout n'est pas perdu.
On se dit que la littérature a encore de l'avenir et ça rend très heureux. Ouais. Alors qu'on on professe qu'on s'en fiche du Goncourt, qu'après tout, ça n'est qu'un marqueur du temps. Que ça... Mais quand ça récompense un grand livre, on est très très content qu'il finisse sous le sapin de Noël ou dans l'assiette de mamie à Noël.
Dans l'assiette de mamie. Reparlez peut-être encore un tout petit peu du montage. Oui. C'est vrai que c'est un mot assez juste chez Vuillard, parce que le montage fait toujours sens. C'est lui, on a sens chez lui, je vais y arriver. On a parlé de cette première séquence avec l'arrivée de ces hommes, 24, je me rappelle plus du chiffre, c'est ça, qui vont se rendre dans ce salon où ils vont effectivement dire bah oui, bien sûr, on va travailler ensemble, ça va être tellement sympa. Mais il y a d'autres moments qui vont être racontés, et puis cette fameuse déroute des Panzers, cette panne géante. Enfin, ce sont des moments. J'ai l'impression que là, je raconte un roman fleuve, mais encore une fois, le livre est très mince. C'est cette juxtaposition des différents éléments qui, comme vous le disiez, Grégoire Leménager tout à l'heure, produit du sens. Et je trouve pas que, alors, c'est certes, il est engagé, Eric Vuillard, j'ai pas de doute non plus là-dessus. Il tord pas les choses. Il met des choses en évidence et tout d'un coup, ça fait sens chez le lecteur. Il est pas là à nous asséner quelque chose.
Oui, effectivement, je crois qu'il laisse le lecteur assez libre de tirer lui-même des déductions de la juxtaposition de tableaux qu'il fait. C'est un miniaturiste aussi. Enfin, là, pour le coup, on est loin de Conquistador. Effectivement, c'est vraiment un miniaturiste. Il nous présente des tableaux, des scènes avec des, là encore, j'en prie ce mot de cinéma, mais avec des effets de zoom sur des petits détails qui sont très significatifs parce qu'ils sont mis bout à bout. Et à l'arrivée, ouais, je crois que le texte, il a vraiment une densité forte. Moi, je me souviens, il y a une scène qui m'avait frappé. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui sont assez frappantes. Il y en a une en particulier, c'est un dîner à Londres, à Downing Street, entre Ribbentrop et Chamberlain, et le dîner dure des heures. Et moi, j'avais adoré cette scène, et là, en refeuilletant le livre, je me suis rendu compte qu'elle faisait combien ? Elle fait 10 pages, et dans mon souvenir, elle en faisait 30, quoi, tellement... Ça ne veut pas dire qu'elle m'avait paru longue, hein, parce que je ne m'étais pas ennuyé une seconde au cours de ce dîner, à la différence de certains des personnages qui participaient. Mais voilà. Donc sur les effets de montage, oui, il passe d'un sujet à un autre. On passe il y a les scènes très très fortes aussi sur la manière dont Hitler faisait de la diplomatie. Et là aussi, un point de vue très contemporain, c'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la manière dont Monsieur Poutine fait sans doute de la diplomatie aussi, c'est-à-dire de manière assez brutal. Et il y a ces scènes-là qui sont très protocolaires, avec des moments très violents à l'intérieur. Et puis, il y a aussi des scènes qui concernent vraiment, pour le coup, la masse populaire, enfin, et en particulier les Autrichiens. Ouais. Il y a un chapitre très fort à la fin où il nous explique qu'il y a eu je ne sais plus combien de suicides au moment de l'annexion de l'Autriche. Ce qui vient contredire un peu l'idée qu'il y avait une grande euphorie populaire. Enfin, donc il y a beaucoup d'effets de clair-obscur comme ça, beaucoup d'effets de contraste tout le temps entre la foule qui applaudit Hitler, effectivement, le 15 mars, je crois, et le nombre assez hallucinant de suicides qui se sont produits en Autriche pendant les mêmes semaines. Quoi.
Raphaël Léris ?
Oui, vous parlez du clair-obscur et de cet aller-retour. Il y a aussi... Mais c'est aussi ce que ça raconte, c'est la manière dont s'entremêlent le grotesque et le tragique, les petits pas qui mènent à la catastrophe, et cette manière d'entremêler le carnaval et la marche vers l'abîme, c'est la très très grande réussite de ce livre. Mais par ailleurs, tout à l'heure, Laurent Nunez parlait de la place de la bêtise, et moi il me semble que l'œuvre de Vuillard, c'est aussi de nous raconter la place de la bêtise, de l'ennui, de la médiocrité, de la contingence dans la manière dont on va droit vers la catastrophe, dans la grande histoire.
Laurent, pour finir.
Oui, en effet, ouais, la manière dont on va vers l'histoire, alors qu'on aurait pu l'éviter complètement. Mais il aurait été si simple d'éviter. Non, parce qu'une dernière chose qui me semble très beau chez Vuillard, c'est qu'il a, en quoi il est très très moderne, c'est qu'il a bien compris le rôle très ambigu du langage. Le langage sert à la fois aux dictateurs à forcer les gens à faire ce qu'ils veulent, ou il sert aux ambassadeurs à noyer le poisson avec Churchill. Le langage a un côté comme ça, et puis le langage chez les écrivains a une autre manière, et Vuillard, il fait ça. C'est-à-dire, il ne dicte pas, il écrit très, il ne noie pas le poisson. Dans 60 pages, on peut pas. C'est un mini aquarium. il ne fait rien que donner des faits, que donner des marques, qui existent toujours, etc. Et donc, voilà, on est assez terrifié par cette économie de moyens qui, est là pour montrer aussi que le langage, ne sert pas qu'à mentir. Voilà.
Bon, cette phrase vient conclure cette séquence consacrée au prix Goncourt dont nous nous réjouissons tous quatre, attribué à l'ordre du jour d'Éric Vuillard, publié chez Actes Sud. Bon, un de fait, il en reste trois à suivre dans la dispute prix Renaudot, Femina et Médicis.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir au prix littéraire de l'automne, et on reste dans la chronologie avec la disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez chez Grasset, prix Renaudot. Comme son titre l'indique, la disparition de Joseph Mengele propose de raconter de façon précise la fuite après-guerre de celui qu'on a surnommé le médecin d'Auschwitz, un médecin qui ne soignait personne, mais qui au contraire, on le sait, s'est livré sur les déportés à des expériences d'une cruauté avant lui inimaginable. Mengele est mort au Brésil en 1979, il y vivait depuis 30 ans, il n'a jamais été jugé. Comment cela a-t-il été possible? Quelle a été la vie de Mengele après la guerre? Ce sont quelques-unes des questions qui sont le point de départ de ce livre d'Olivier Guez. Alors je vérifie qui a lu, qui n'a pas lu, parce que j'ai un compte à jour fait par Grégoire Difior. Et bon. Raphaël Léris, vous avez lu ce prix Renaudot.
Vous pouvez répondre à l'interro sur le prix.
Vous pouvez répondre à l'interro. Alors, que dire sur ce livre d'Olivier Guez?
Alors d'abord que dans la liste assez baroque de la dernière sélection du Renaudot, il était le choix qui me semble le plus... Enfin, l'un des choix.
C'était quoi les autres?
Alors il y avait... Si
vous êtes renaudotologue aussi? Ça va ensemble.
Bah, bien sûr, c'est un double cursus, la même heure, donc c'est un double cursus, voilà. Il y avait Maï Binébine, le fou du roi, qui est un livre qui était paru chez Stock en mai, qui était assez intéressant mais pas inoubliable, tout comme Nos années rouges d'Anne-Sophie Stefanini, paru chez Gallimard au mois de mars, qui était un livre sur les pieds rouges, ce qui est un sujet très intéressant mais qui n'était pas non plus inoubliable. Après, pour le reste, j'avoue que j'ai...
C'était
un
tellement
petit
baroque
trou,
que
mais
vous
c'était
avez
assez baroque. Voilà.
D'accord. Donc,
en tout état de cause. Donc, il me semblait qu'Olivier Guez était le plus rationnel dans ce prix. Moi, ce qui me plaît dans ce texte, c'est que le travail d'Olivier Guez, comme souvent, quand j'ai reçu, je l'ai reçu, comme genre, quand je reçois des biopics, hein, comme ainsi qu'on dénomme les ouvrages inspirés, les exofictions inspirées donc par les vies d'hommes et de femmes réelles, j'ai un petit peu envie de jeter les livres contre le mur parce qu'ils arrivent à l'appel les uns après les autres. Bon. Mais en tout état de cause, je trouve que le geste d'Olivier Guez est assez beau dans la mesure où il décide, lui, de traquer Mengele là où la plupart des gens avaient renoncé, là où les Allemands, ça ne les intéressait pas tellement et c'était pas tellement à leur avantage de se lancer là-dedans. Le Mossad avait un peu d'autres chats à fouetter, enfin c'était compliqué. Donc lui traque Mengele de 49 à 79 et termine en 86 quand on apprend qu'il est mort, quand ses restes, les restes de son corps sont retrouvés. Donc voilà, donc ce geste-là m'intéresse beaucoup. La manière dont il découpe son texte, donc d'abord il y a le Pacha, ça commence avec l'arrivée de Mengele en Argentine, et ça nous amène jusqu'en 60, où commence le procès Eichmann à Jérusalem, et là, pour Mengele qui a la belle vie, parce qu'il vit notamment grâce à l'argent de sa famille, qui est très la haute bourgeoisie bavaroise, là d'un seul coup, lui il est persuadé qu'il est traqué par le Mossad, donc commence une partie qui s'appelle le rat, et qui est la manière dont il est persuadé en permanence d'être poursuivi, et donc dont il se terre, alors qu'au fond, il n'a pas tant que ça de monde derrière lui. Donc c'est une autodévoration que raconte sa deuxième partie. Donc, voilà, de ce point de vue-là, je trouve que cet ouvrage a beaucoup de qualité. Après, il y a des choses qui me plaisent moins sur la manière d'inventer la vie amoureuse de Mengele. Enfin, on sait vaguement qu'il a eu une liaison avec la femme qui tenait la ferme dans laquelle il s'est caché assez longtemps. Voilà, ça me semble pas indispensable, mais à part ça, ça me semble être un ouvrage de grande qualité.
Vous partagez cette conviction, Grégoire Leménager, sur Olivier Guèze?
Pas oui, vraiment avoir si, votre si, mot si, quand si, même. Si, hein. Non, non, en grande partie, enfin... je trouve le livre très très bien mené. Je trouve que c'est, enfin, le sujet de ce livre est très intéressant. Je trouve qu'il le traite de manière complexe, vraiment. Enfin, sans grande complaisance pour le personnage. Enfin, c'était quand même très très casse-gueule.
Il manquerait plus que ça.
Oui, mais enfin, c'est quand même casse-gueule. Et à part quand il raconte, quand il imagine les rêves de Mengele, ce que je trouve vraiment un peu limite, mais il le fait très peu. Il le fait sur deux fois deux pages. Je trouve qu'il s'en tire très très bien. Et je trouve qu'il parle très bien. Moi, j'ai été très sensible à la manière dont il restitue cette cavale dans la marche du monde aussi, et dans l'histoire qui continue avec ce type qui en fait est complètement dépassé, qui se rend pas du tout compte de ce qu'il incarne encore. Enfin, c'est et de la manière dont finalement l'Allemagne est passée à autre chose, quoi. [S2] Ouais. [S1] Très clairement. Enfin, il y a des choses que je trouve vraiment très très bien, et c'est un livre qui est très bien mené et écrit d'une manière assez musclée, assez nerveuse, et qui se lit avec beaucoup d'intérêt. Après, moi, j'ai effectivement une réserve qui est un peu celle que soulève Raphaël, et moi, j'irais peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'il est passé à côté d'un... Il a écrit un bon livre, hein, il a écrit un bon livre. Je me demande s'il n'est pas passé à côté d'un livre meilleur. Et très franchement, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup à la fin. Quand il nous présente ses sources et sa bibliographie extrêmement riche, extrêmement sérieuse, dans laquelle il y a quand même, je ne sais pas pourquoi, Conrad, La Divine Comédie et Franz Kafka. Bon, on se demande un peu ce que ça vient faire là. Mais surtout, il présente ça en disant, voilà, ce livre relate l'histoire de Joseph Mengele en Amérique du Sud. Certaines zones d'ombre ne seront sans doute jamais éclaircies. Seule la forme romanesque me permettait d'approcher au plus près la trajectoire macabre du médecin nazi. Peut-être. Mais lui reste dans une espèce d'entre-deux. Ah, c'est-à-dire oui. Que formellement, il va pas complètement dans le roman. Et du coup, on a l'impression qu'il a, de manière très habile, mais un peu gênante, il a tressé, moi qui ne connais pas bien cette histoire, je suis absolument incapable de savoir ce que lui a bouché comme trou et où la fiction est intervenue. Et j'aurais préféré vraiment qu'à un moment, il s'arrête et qu'il nous dise, voilà, là, pendant ces mois-là, il y a une zone d'ombre là. Et on ne sait pas ce qu'a fait ce personnage. Mmh. On ne sait pas bien. Et ça aurait donné plus de profondeur au livre, une espèce d'honnêteté aussi. Enfin, je ne dis pas du tout que le livre est malhonnête, mais formellement, ça produit cet effet-là. Et en particulier, cette histoire sur la vie sexuelle de Mengele, je ne sais pas ce qui est documenté, je ne sais pas ce qui est sourcé, je ne sais pas ce qui est inventé. Et si c'est vrai, si c'est avéré, pourquoi pas ? C'est peut-être intéressant, ça en dit peut-être long sur le personnage. Si c'est inventé, ça en dit long sur Olivier Guèze peut-être, mais sur Mengele, pas forcément. Et voilà, j'étais un peu embarrassé par ça. D'autant que le livre, qui à 99% est sans doute fondé sur des faits, adopte la forme d'un récit biographique au sens strict. Et il n'y a pas mais il n'y a pas les effets de montage qu'il y a chez Vuillard. Par exemple, j'aurais préféré qu'il étiquette récit, comme l'a fait Vuillard, avec des trous, plutôt que d'en faire un roman en rajoutant, oui, je sais pas, 1% de fiction à quelque chose qui maîtrise par ailleurs très bien. Enfin,
oui, parce qu'il me semble, en effet, vous pointez là quelque chose, Grégoire Leménager, qui me semble très juste, parce que je crois qu'il y a, je n'ai pas un doctorat sur la vie de Joseph Mengele après-guerre, mais qu'il n'y a pas beaucoup de choses romanesques, si ce n'est celles évidentes concernant les rêves, enfin bon, c'est ces choses que vous avez évoquées, que moi, ce qui me semble plus évident, c'est qu'il y a un très bon sujet, sauf que il met bout à bout un certain nombre de choses que l'on sait sur Joseph Mengele. Évidemment, il y a des odeurs, des couleurs qui sont le propre du romancier, mais enfin, il est vraiment pour moi très très timide. C'est quand même pas un grand geste littéraire pour moi ce livre d'Olivier Guèze. Mais je reviendrai. Laurent Nunez, vous avez eu le temps de finir le livre ?
Oui, il est sorti mardi. Enfin, il a été publié mardi. Il a été
primé.
Célébré
lundi.
Lundi, encore plus.
Ouais. Non, mais vous auriez pu avoir d'autres choses à faire. Non, j'étais pas certain. C'est pour ça que je vous demande.
Non, et en effet, je suis complètement d'accord avec ce que j'entends. C'est une très bonne enquête qui aurait pu tourner mieux. C'est amusant. Peut-être pas Patitil de Vullard et du Goncourt.
Patitil. La comparaison est là
parce qu'il y en a un qui traite d'avant la guerre.
Mais ça n'en ferait pas un grand livre après. Non plus si Vullard n'avait pas eu le Goncourt.
Oui, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a une chose qui m'a plu. Moi, c'est le côté, vous savez, un peu Raskolnikov, le côté crime et châtiment. Mmh. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, alors que Dostoïevski nous l'expliquait, qui ne comprend pas que le coupable ne trouvera pas de tranquillité tant qu'il n'avouera pas. Et c'est quelqu'un voilà, qui est persuadé que du coup, tout le monde l'espionne, tout le monde le recherche, et que du coup, il va y passer, jusqu'à, alors qu'en fait... Il meurt tranquillement sur une plage noyée. Mmh.
Sur une plage noyée. Je vous laisse l'image. Hein.
Mais c'est ça. Donc vous voyez, voilà, c'est intéressant. Pour le reste, en effet, c'est une narration sage. Il n'y a pas d'effet de style. C'est un livre honnête. C'est de quelqu'un qui se bat contre un personnage qu'il n'aime pas du tout, visiblement. Voilà, il y a... S'il y a d'autres choses qui m'ont déplu, c'est peut-être moins les rêves, peut-être que c'est, par exemple, ses conversations avec son fils, qui m'ont pas laissé un souvenir impérissable, ou peut-être, alors c'est très différent, la description de toutes les horreurs qu'il faisait dans son laboratoire, j'avoue que je m'en serais passé.
Bon, Raphaël Léris, c'est vous qui l'avez le plus défendu finalement, ce livre d'Olivier Guèze.
Non, mais à aucun moment, je ne considère pas que c'est un grand roman. Je trouve que
d'accord.
C'est pour moi, c'est un très bon livre sur un sujet voilà, effectivement extrêmement casse-gueule. Je trouve que la manière dont il... j'aurais pu être embêtée par... donc je le disais, il y a des effets de fiction qui ne me convainquent pas du tout. Le fait qu'il se concentre sur la vie de Mengele en Amérique du Sud... permet en tout cas d'enlever ce que ça pourrait avoir de terrible s'il inventait la vie sexuelle de Mengele à Auschwitz. C'est une vraie question de moment on prend Mengele et on raconte sa vie. Mmh. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, à la fois ça ne me plaît pas, mais je pense aussi que ça relève de ce genre vibrionnant et foisonnant qu'est l'exofiction. L'honnêteté d'Olivier Guèze me... Enfin, pardon.
Non, je voulais pas vous interrompre.
Non, me semble en faire un livre porté vraiment par son auteur, même si effectivement l'écriture est pas spectaculaire. Mais pour avoir lu le premier roman d'Olivier Guèze, qui pour le coup était baroque et qui était l'antithèse absolue, je pense qu'il a vraiment fait en sorte de tenir ses chevaux parce que
c'est pas
le sujet.
Non, pas dommage.
Qu'il a tout à fait raison.
Grégoire Leménager, pas dommage.
Non, pas dommage, parce que je pense que justement une des grandes qualités du livre, c'est son honnêteté. Moi, ce que je lui reproche, parce que je l'aime bien ce livre. Je trouve dommage qu'il soit pas allé au bout de cette honnêteté. Et justement, aller au bout de cette honnêteté, ça voulait dire ne pas injecter de fiction dedans. Et sans forcément faire ce qu'a fait Binet sur HHHH. Il s'en explique un peu dans une interview que j'ai lue, Guèze. Il dit qu'il ne voulait pas se mettre en avant, etc. Bon, c'est aussi une forme de modestie et d'honnêteté, mais sans forcément se mettre en avant, je trouve que il a une forme qui est très journalistique, une forme narrative comme ça. Il aurait dû la tenir jusqu'au bout, et y compris en soulignant, en exhibant, en faisant comprendre au lecteur qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et voilà, il a voulu faire trop bien, je crois.
Un commentaire, Boris Pinot.
Oui, Aurélien sur Twitter se dit davantage tenté par un autre titre de cette rentrée littéraire qui a pris la figure de Mengele comme personnage, c'est Mischling de Affinity K chez Actes Sud.
Vous avez lu ça? Ah, ça y est, moi non plus. Hein. Je n'ai même pas vu passer ça. Donc Aurélien, merci de nous signaler cet autre livre. Moi, je voulais signaler, je recherchais la citation précise pour terminer que Mengele aurait dû lire Stefan Zweig, ce qui aurait fait du bien. Lire La pitié dangereuse, aucune faute n'est oubliée tant que la conscience s'en souvient. C'est la fin de La pitié dangereuse. Et c'est l'histoire que raconte Olivier Guèze. Mais c'est pas dans les sources bibliographiques, La pitié dangereuse.
J'ai pas appris la bibliothèque par cœur, parce qu'elle est longue.
Ça, il aurait pu y être.
Bon, je crois pas qu'il y ait ça.
En tout cas, ce livre, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze chez Grasset, a reçu lundi, c'était lundi, hein, vraiment, le prix Renaudot.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the
right. troisième sujet de cette dispute consacrée le jeudi soir à la littérature et ce soir au prix littéraire, avec à présent le prix Fémina, décerné à la Serpe de Philippe Chénéda, publié chez Julliard. Nous en parlions le 14 septembre dernier, et puis là c'est les chaises musicales, puisque à l'époque il y avait Raphaël Léris, mais il n'y avait pas Grégoire Le Ménager ni Laurent Nunez, ils vont donc ouvrir le bal.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans.
Mais après une longue série de romans en piochant dans sa biographie, Philippe Janeda s'est intéressé à la vie des autres, ce qu'il fait à nouveau cette fois-ci avec celle d'Henri Girard, soupçonné, on dit bien soupçonné, d'un triple meurtre, acquitté, exilé, puis revenu en France avec un manuscrit qu'il fera paraître sous un pseudonyme, celui de Georges Arnaud. Le livre s'appelle « Le salaire de la peur ». On sait que ce livre a été adapté au cinéma par Georges Clouseau, qui a remporté la Palme d'Or et le Lion d'Or. Le hasard du calendrier fait que demain soir, dans la dispute, nous parlerons de la ressortie en version restaurée de ce film de Clouseau, « Le salaire de la peur », au milieu de bien d'autres. Mais on revient à Janeda avec Laurent Nunez. Est-ce que vous êtes un lecteur de Janeda d'abord? Vous l'avez-vous été?
Je veux bien vous donner un aveu.
Ah, c'est le premier livre de Janeda que vous lisiez?
Non, du tout. Oh bah, non, justement. Non. En bas de chez moi, il y a un café et dans le 10e arrondissement.
C'est comme une chanson pour enfants.
Voilà. Mais... Et il y a quelqu'un très souvent qui y est et qui aime bien le whisky d'ailleurs et qui.
Ça balance.
Parce qu'il balance même dans son livre et qui écrit. Et c'est Janeda. Voilà. Je peux lui dire parce que je l'ai jamais dit. Je vais jamais aller le voir en l'embêtant en lui disant que j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai vu ce livre peut-être être écrit.
Vous êtes passé souvent alors, parce que le livre est gros, lui.
Ou il était là souvent, je ne sais pas. En tout cas, donc voilà, moi j'ai sauté de joie quand le Fémina a été...
Pourriez reproduire ce saut?
Il a été décerné.
Non, pas à l'antenne.
On n'a pas encore de caméras ici.
Si, mais elles ne sont pas allumées, heureusement.
Voilà. Non, je suis très content parce que, en effet, Janeda avait, vous l'avez dit, avait commencé par des récits autobiographiques ou autofictionnels, si vous voulez. Et puis, depuis...
Qui était très, très, très bien. J'adorais ça. Livres.
Mais il a, grâce à... Comment s'appelait le dernier? Sulok?
Non, le premier. Donc,
le premier, pardon.
Sulok, c'est le premier.
Voilà, Sulok, puis La petite femelle. Mmh. Voilà, il a transformé ce qu'il faisait avec des faits divers, avec des personnages qu'il fallait réhabiliter, plus ou moins, même s'ils étaient coupables. Mmh. Et il a réussi à injecter de lui dedans. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de Guez qui n'arrivait pas à injecter de lui dans son enquête. L'enquête, c'est du Janeda craché. Ça commence par une longue...
Par la sortie du périph.
Ouais, par une longue... par la sortie du périph et par l'écoute de France Culture, d'ailleurs.
Absolument.
Sur l'enquête et donc voilà il y a et sur le Club des Cinq d'ailleurs, donc tout c'est absolument génial Janeda, parce que deuxième aveu, j'aime beaucoup les émissions un peu ridicules comme Faites entrer l'accusé ou Crime. Faites entrer l'accusé, je le dis parce que...
On transmettra au producteur de l'émission.
Parce que j'ai vu Janeda dedans, ouais. Je peux le dire. Et ouais. Janeda fait l'inverse.
Vous le voyez
partout, en fait. C'est ça, en fait. Je m'aperçois qu'en fait...
C'est un fétichisme un peu.
Je m'aperçois qu'en fait, je le
vois
flique.
Janeda partout.
Et en fait, il fait l'inverse. Toutes ces émissions-là de faits divers sont là pour dire aux gens, restez chez vous. Mmh. Le dehors fait peur.
Oui.
Et lui, il injecte de l'humanité dans le juridique, dans le judiciaire, dans les ragots.
Alors que les meurtres, ils sont quand même gratinés. Hein, le triple meurtre.
Ou les coups de serpe, 18 coups de serpe, c'est pas bonne. Mais voilà, moi, je trouve c'est un bonheur à lire, et c'est assez rare les livres qui même sur aussi sordide soit-il, sur le thème, rendent joyeux.
Bon. Grégoire Laménager, ce prix a été décerné donc mercredi, sauf erreur.
Oui.
Autant dire hier. Est-ce que vous avez eu le temps de vous plonger suffisamment?
Non, mais moi, moi, Génada, j'étais toujours passé à côté.
Bon.
Donc, c'est les hasards de la vie. Mmh. La petite femelle, ça m'intéressait pas mal, mais le fait qu'il soit énorme a fait que je suis tombé sur quelqu'un d'autre dans la rédaction et du coup, j'étais passé à côté. Là, me rebelote avec celui-là, mais j'ai commencé à le lire le week-end dernier.
Ah.
Quand même, par
vous
conscience
avez des
professionnelle.
J'avais des
intuitions, des intuitions.
Ouais.
Et je trouve, donc je n'en ai lu que 250 pages sur 630, donc c'est faible.
Mais vous dites qu'il est coupable,
mais je trouve ça absolument formidable. Un livre que je trouverais moyen, après m'être acquitté de mon devoir ici, ouais. je le rangerai dans ma bibliothèque, comme disons, je le finirai un autre jour. Celui-là, non, j'ai vraiment très envie de le continuer. D'abord, parce que je ne sais toujours pas combien de coups de serpe ont été donnés, puisqu'il me fait mariner, là, avec ses digressions, ses parenthèses. Je trouve ça très, très drôle. Je trouve que cette histoire est absolument passionnante. Moi, je l'ignorais complètement. Je trouve qu'il la raconte très bien. Avec une mise en scène de soi qui passe très bien parce qu'elle est pleine d'humour. Un mélange des registres aussi auquel je suis très sensible. Je trouve qu'il a une façon de passer d'un langage très soutenu à un langage très familier, d'un vocable de technique un peu juridique à un détail historique. Enfin voilà, il tresse tout ça très bien. On a vraiment l'impression d'entendre un baratineur de très grande qualité qui nous tient le crachoir en nous racontant une histoire. C'est très 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 agréable comme compagnie. Voilà,
vous
ce que je peux vous dire sur Génada. Donc j'ai la ferme intention de continuer.
Raphaël Léris.
Alors c'est un excellent baratineur, Génada, mais c'est beaucoup plus que ça, il me semble. La suite du texte, non, parce que effectivement à 250 pages, mais on s'amuse bien. On a eu l'histoire de l'horrible sale gosse qui est Henri Girard, et puis après on découvrira les zones plus compliquées, ouais. Et l'enquête à proprement parler de Génada à travers le dossier judiciaire sur les lieux, et d'un seul coup, et le livre en devient bouleversant. Alors toujours mine de rien, parce que on se tient chez Génada et on fait les choses toujours en douce. On a un grand écrivain en douce. C'est vraiment, je vais pas avoir l'impudeur de vous faire des démonstrations, mais voilà. Et il est bouleversant mine de rien avec ce livre qui donc veut réhabiliter un homme, qui est écrit pour l'honneur de cet homme, et qui est aussi un très beau texte sur les relations entre les pères et les fils, à travers l'histoire d'Henri Girard et son père, mais aussi à travers les vocations de son fils Ernest, qu'on a vu, que les lecteurs de Génada ont vu grandir au fil des années. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très beau texte, et c'est une très, très heureuse nouvelle. Voilà, moi, je saute rarement de joie sur les prix littéraires, mais celui-là m'a fait extrêmement
plaisir. Vous
ne
l'aviez pas donné gagnant non plus ?
J'aurais trouvé sidérant qu'il n'ait aucun prix, vraiment.
Ouais. Parce qu'il a été beaucoup nommé. Laurent Nunez ?
Oui, alors il a été beaucoup nommé. Moi, j'étais très surpris il y a quelques semaines, parce qu'en fait, il était dans la sélection du Goncourt aussi. J'étais très surpris cette manière de voir dans un reportage que les jurys Goncourt parlaient. Je crois que c'était dans M Le Monde, c'est ma mémoire bonne. Et Eric Mandelschmidt qui lançait à Tara Benjeloun, sa mémoire est bonne, et je crois qu'elle l'est. Non, on peut pas avec ce livre. On ne va pas infliger ça au lecteur. C'est-à-dire c'est-à-dire le pavé.
Il n'avait pas regardé, hein. Strictement.
Là, ils sont pas déçus, les lecteurs, avec Eric Vuillard. les libraires ont peut-être davantage.
Donc, ils ont peut-être obéi à leur désir en courant en vue l'art, tant mieux. Mais en tout cas, en refusant, en prétextant le nombre de pages pour ne rien donner à Génada, voilà, je suis heureux que le Fémina ait eu plus d'appétit.
Bon. On va dire ça comme ça.
Voilà, c'est un curieux argument d'ailleurs, parce que le Goncourt a été remis il y a quelques années au livre de Pierre Lemaître,
Au
revoir là-haut, qui, si mes souvenirs sont bons, faisait 600 pages.
Et le bienveillant.
Qui pour le coup était un peu longué dans son dernier terme.
C'était pas vraiment un concours.
Et c'est des livres qui ont eu un certain succès public, me semble-t-il. Donc voilà. Non, il y a quelque chose.
Oui,
je peux dire encore un petit mot ou pas ?
Je vous en prie.
Non, il y a quelque chose qui me frappe quand même quand on considère ces trois livres, outre le fait qu'ils ont tous les trois été écrit par des garçons. On se dit qu'être une femme publiée, c'est pas si facile par les temps qui y courent.
On va y revenir.
Outre ce fait-là, c'est quand même des livres en noir et blanc, hein, beaucoup. Mmh. Chez Vuillard comme chez Génada, il y a un point de vue très très contemporain sur des événements du passé, mais c'est quand même des livres qui regardent beaucoup dans le rétroviseur. Moi, ça m'a un peu frappé, ça.
Bon, voilà. Le noir et blanc avant le noir, parce que le noir arrive dans quelques instants, mais on va voir ça avec Yannick Lennel. Pour l'instant, on parlait de La Serbe de Philippe Génada, publié chez Julliard, et j'en profite aussi pour vous dire que la série documentaire de l'émission LSD sur les prix littéraires qu'avait Stéphane Bonnefoy est disponible en réécoute sur le site de France Culture.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le quatrième prix littéraire du sommaire, au sommaire de notre dispute, pour une fois on parle de quatre livres, on va plus vite que d'habitude, mais l'actualité des prix nous y conduit. C'est le Médicis, donc décerné à Tiens ferme ta couronne de Yannick Lennel, publié chez Gallimard, on en a parlé ici le 5 octobre dernier. Et aucun de vous trois, je crois, là on est tranquille, on va pouvoir avoir des paroles tout à fait nouvelles. Tiens ferme ta couronne, c'est un conseil alors, qu'on peut donner à beaucoup de gens, que Yannick Lennel donne ici. J'en profite pour dire tout de suite que je trouve assez réjouissant de voir un auteur sérieux comme a pu l'être Yannick Lennel être emporté dans un pays quand même assez loufoque, même si le fond est celui d'une terrible dépression ou d'une folie, hein, puisque ça commence comme ça de mémoire. Vous pourrez me rappeler la première phrase, Raphaël Léris.
J'ai fait réciter mémoire, mais à cette époque, j'étais fou.
Voilà, ça commence plutôt bien, Laurent Nunez, non ?
Oui, chez Nel, c'est fréquent. La folie, elle est là, elle permet d'écrire, parce qu'elle permet de voir à travers le réel et de comprendre les appels que le réel fait. Je suis très heureux que Yannick Lennel ait eu ce prix, parce que c'est un...
Vous avez sauté de joie ou pas, Laurent ?
Je crois que j'étais en métro, c'est plus compliqué. Parce que c'est un de nos grands écrivains. C'est un de nos grands écrivains, ça se reconnaît vraiment, il a une sorte de patte. Vous savez, il y a des gens qu'on reconnaît juste à travers ce qu'ils écrivent, juste à la forme des phrases. Lennel fait partie de ces gens-là. De toute façon, presque tout ce qu'il avait écrit, c'est quelqu'un qui a été récompensé déjà depuis plusieurs années. Il a eu le prix Décembre pour Cercle, il a eu l'Interallié il y a quelques années. C'est quelqu'un qui, c'est un livre, j'ai un peu décroché parce qu'il y avait une absence d'humour.
Ouais.
Chez lui,
le Renard Pâle qui était le précédent, je crois.
Ça manquait.
Oh, il y avait Je cherche l'Italie qui était encore un pas supplémentaire dans le sens d'humour. Bon.
Alors qu'au tout début, l'un de ses premiers livres s'appelle quand même Introduction à la mort française, et c'est quand même l'histoire de Duras et de Blanchot qui séquestrent des écrivains dans une villa. Voilà. Moi, ça me faisait extrêmement rire. C'est la même chose que ce qui est bien avec Yannick Lennel, c'est que de la même manière qu'un de ses livres s'appelait Cercle, c'est que c'est presque toujours la même histoire. Ça tourne, mais ça tourne pas en rond. C'est ça qui est intéressant. Il y a un personnage qui s'appelle souvent Jean, d'ailleurs.
Jean Deschelles, même.
Il s'appelle Jean Deschelles. Qui
ici est scénariste.
Voilà, qui là est scénariste, qui s'ennuie un peu, qui regarde beaucoup Apocalypse Now. On peut pas résumer ce livre.
Il a écrit un scénario sur Melville qui voudrait faire tourner. Point.
Ouais, enfin,
par Chimino, si possible.
Ouais. Si on veut développer. Avec Isabelle Huppert ? Non.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chez Lennel, c'est qu'il ne transige pas sur son livre, sur la qualité, sur ce qu'il veut dire. Et là, il vient avoir un prix qui va le rendre encore plus célèbre. Grâce à cette qualité, je voudrais juste applaudir vraiment ces titres. Les titres de Vénel sont vraiment géniaux. Celui-là est encore plus beau parce que Tiens ferme ta couronne, il a trouvé ça dans les carnets de Proust, mais Proust avait trouvé ça dans l'Apocalypse de Jean, évidemment, qui est la phrase exacte, c'est Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te le prenne. Ne te prenne ta couronne.
Voilà,
donc il a mixé les deux. C'est un titre magnifique. Il mérite largement cette couronne.
Bon, alors on va faire le prix des titres. Ça pourrait être pas mal. Ça vaut pas qu'on lance ça. On en reparle après l'émission. Raphaël Léré sur Yannick Enel et ce prix Médicis.
Oui, c'est un texte très beau qui est récompensé. Pour moi, effectivement, les livres de Yannick Enel racontent toujours la même chose. Hein, si on doit se poser la question de l'intrigue, qui est Jean Deschelle est fou, sort de chez lui et à la fin il aura écrit un livre. Donc ça serait le pitch de départ. Au milieu, il y aura eu des épiphanies. Et celles de Tiens ferme ta couronne sont d'autant plus spectaculaires et parfois bouleversantes qu'elles sont accompagnées de cet humour sur ce personnage de loser. Mmh. C'est quand même un très beau personnage de loser qui nous est donné à contempler dans ses errances entre New York, Beaufinger, entre Michael Cimino, un serveur de bistrot qui ressemble étonnamment à Macron, Isabelle Huppert,
président de la République,
un dalmatien,
s'il vous plaît.
Excusez-moi, président de la République, un dalmatien qui a un comportement pour le moins suspect. Et voilà, donc à travers ses errances et ses bizarreries, il y a des épiphanies, il y a la recherche de la beauté. Et si parfois on n'est pas très loin de frôler le grotesque, comme il a pu y tomber dans quelques autres livres, je trouve que là, il est plutôt du côté du sublime, et c'est pas rien.
Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, Grégoire Leménager, lisant La Serpe, vous ne pouvez pas tout faire.
Non, je ne peux pas tout faire.
Yannick Enel, vous avez passé votre tour.
Non, mais Enel, j'avais lu 50 ou 100 pages du livre, et j'ai passé mon tour aussi. Mais j'étais assez agréablement surpris, effectivement, et assez content de le retrouver en forme, parce que l'œuvre d'Enel, elle est intéressante, mais elle est inégale. Et ces derniers livres, moi-même. Alors après, je me méfie parce que le début est très bien, mais les débuts chez Enel sont souvent très bien. Une fois sur deux, ça retombe. Mais j'étais content de retrouver son humour, parce qu'effectivement, quand il est uniquement dans le lyrisme, il y a un moment où il se prend les pieds dans le tapis, je trouve. Et quand il combine le lyrisme et l'humour, ça peut être assez bien. Et puis enfin, c'est intéressant qu'il ait eu un prix, parce que j'ai l'impression que c'est le dernier refuge de l'imagination dans cette saison littéraire. C'est quand même assez frappant. C'est-à-dire que même si Gaz injecte un peu de fiction, c'est quand même d'abord un biopic. Une exofiction, enfin voilà, mais bon, Génada, c'est quand même très factuel, c'est documenté, ce sont des enfants de Carrère et Echenoz, hein, et Enel, bon, il fait autre chose.
C'est un autre enfant d'un autre Echenoz.
Ouais, peut-être, ouais.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais je pensais aux Echenoz aussi. De Ravel, oui, des petites monographies là. Voilà, et ça me frappe beaucoup quand même, et notamment de la part du Goncourt, parce que tout à l'heure on a énuméré la liste des raisons qui faisaient qu'on s'attendait à ce que Vuillard n'ait pas le Goncourt. Dans cette liste, il y avait quand même le fait que ce n'est pas un roman. Et il y a quelques années, le Goncourt, ils écartaient d'entrée de jeu Carrère, précisément, parce que ce n'était pas un roman. Et ils ont beaucoup dit qu'ils tenaient à défendre jusqu'au bout le roman. Et là, ils ne l'ont pas fait, en considérant que la dimension littéraire d'un texte était plus importante que sa dimension fictionnelle dans leurs critères. Je trouve ce glissement assez intéressant. Moi, je milite pour qu'on n'emploie pas le mot roman à tort et à travers, mais en revanche, qu'on reconnaisse suffisamment de qualité littéraire à un récit pour lui donner un grand prix, je trouve ça bien.
Oui, vous partagez cette opinion, Raphaël Léris ?
Oui, je partage l'opinion de Grégoire. J'ai vu qu'il y a un espèce de début de mini-polémique sur cette question de la fiction qui ne serait pas assez récompensée dans ces prix. Et je pense qu'on s'en rougit un peu d'avoir à dire qu'un texte littéraire, c'est d'abord une langue, un regard, enfin, tout ce qu'on apprend en première, en cours de littérature. Voilà, j'aime la fiction plus que ma propre vie souvent, mais c'est souvent la grandeur de la littérature, mais de même que tout roman n'est pas de la littérature, eh bien, il ne suffit pas de ne pas être une fiction pour ne pas être de littérature, et ce sont des textes de littérature qui me semblent avoir été récompensés à travers les trois non-fictions dont nous avons parlé au début de l'émission.
Autre polémique qui pointe petite ou pas, on va voir. Boris Pinault.
Oui, quelques remarques générales sur les résultats de ces quatre grands prix littéraires. Aurélien sur Twitter pointe leur palmarès 100% masculin. Quatre hommes récompensés, écrit-il, pour ceux qui souvent fait déjà œuvre. Il questionne également, suivi sur Twitter toujours par Haroun Al-Radid, la place des éditeurs indépendants qui ont rarement les prix et dont il écrit qu'ils sont très peu représentés.
Ouais, ça fait beaucoup de questions en une seule, mais quand même, allez, prenons-les dans l'ordre. Les grands prix sont décernés aux hommes cette année. Alors, signalons avec un coucou à Elisabeth Philippe que Grégoire Bouillet a le prix décembre, ce qui doit pas la, ce qui doit la réjouir absolument. On avait eu Daniel Rondeau, prix de l'Académie française, il y a 15 jours. Il reste quoi, l'Interallier?
Oui, qui est quand même sacrément...
C'est très masculin.
Très masculin.
Le prix de Flore, c'est partagé entre deux garçons.
Oui. Aussi, voilà.
Pierre Ducrozet et
Jonathan Zarka.
Voilà. Donc, est-ce qu'on doit en dire quelque chose? Est-ce que c'est un fait qui doit être souligné?
C'est un fait qui doit être souligné, mais nos yeux sont en ce moment très sensibles à ça. Entre les balances ton port et l'écriture inclusive, on cherche clairement comment augmenter la place de la femme dans la société civile ou artistique, donner plus de visibilité. C'est un fait. Maintenant, j'ignore. Il doit bien avoir des livres sur ça, sur les jurés. Sont-ils masculins, féminins? Ce sera déjà une bonne interrogation. Même si, du coup, ça voudrait dire que ça serait dans l'idée que les hommes
votent pour les hommes. Les femmes,
voilà. Ouais. Donc on n'y arrivera pas. Le féminin récompenser un homme, tant mieux. Le récompenser une femme, on aurait dit féminin récompenser une femme, c'est pas normal. Écoutez, en effet, l'absence de femmes.
Ce qu'on aime, c'est qu'il récompense des bons livres.
Ben voilà, c'est ça. Voilà. L'absence de femmes est triste, mais. De presque tous les livres dont on a parlé, on est quand même très fiers qu'ils aient eu des prix. Mmh. C'est quand même des très bons livres.
Ouais, c'était pas le cas chaque année. Raphaël Léry, sur cette question.
Je suis un peu partagée, je ne sais pas ce que j'en pense. À part qu'effectivement, par ailleurs, les jurys restent très masculins. Mmh. Mais qu'en même temps, je ne suis pas sûre d'être favorable au principe ni d'un jury de femmes. Ça ne me met pas forcément à l'aise. Enfin, j'aime bien en fait, globalement la mixité. Ouais. Je suis plutôt pour. Mais le problème, c'est que la mixité se transforme généralement avec des femmes alibi. Donc, c'est un peu compliqué. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour dire qu'il y a eu de très beaux textes de femmes dans cette rentrée. Je pense à Summer de Monica Sabolo. Bah,
paru chez la première émission. Hein, c'était magnifique.
Voilà, c'était magnifique. Je pense à Chantal Thomas. L'avancée de la nuit de Yakuta Alikavazovic.
Dont on parlera.
Qui est une merveille.
On va parler ici dans 15 jours ou la semaine prochaine, je ne sais plus.
Voilà, et donc il y avait des très beaux textes féminins à récompenser aussi. Enfin, c'était pas, ça ne se jouait pas entre des textes de qualité écrits par des hommes et des textes
moins bons écrits
par des femmes. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un quota, alors je ne dirais pas un syndrome Cresson, mais disons que comme le Goncourt a été donné l'année dernière à Leïla Slimani, bon ben on est bon pour 10 ans, la question ne va plus se poser pendant un certain temps.
Non, mais j'aurais adoré que Chantal Thomas ait le prix Goncourt. Bon, je suis ravi que ce soit Eric Vuillard, mais elle a disparu très vite des listes, par exemple, et Monica Sabolo.
Parce qu'elle jurait du prix Fémina et techniquement ne récompense pas le membre d'un.
Je ne savais pas.
Quelqu'un qui peut.
Vous m'éclairez.
D'un autre grand jury.
Grégoire, vous m'éclairez autrement aussi sur ces questions.
Je pense qu'on est dans
la petite place des éditeurs dits indépendants. Alors c'est vrai qu'Actes Sud a eu 3 Goncourt en 5 ans et qu'avant, c'était la première fois qu'il l'a eu, c'était quand même une sorte de révolution à l'époque.
Je peux dire juste un mot quand même sur les femmes.
Un petit.
Très petit. Il y a quand même une femme qui a eu un prix. Ah. Qui a eu le Renaudot Essai, qui s'appelle Justine Augier.
Oui,
avec un livre dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment très très bien.
Enfin, on ne fait
pas
les essais dans
cette émission,
mais on ne peut pas tout faire.
Il y a plus de littérature dans cet essai-là que dans plein de romans.
Le livre s'appelle
Il s'appelle De l'ardeur, il raconte l'histoire de Razan Zaitouneh, qui est une avocate syrienne qui a disparu, qui est peut-être encore en vie, mais vraisemblablement pas, qui a disparu pendant la Révolution. Et c'est vraiment passionnant. Enfin, on parlait de Carrère tout à l'heure, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec un peu moins d'exhibitionnisme de la part de Justine Augier, mais c'est vraiment très très bien. Voilà. Et puis sur les petits éditeurs, oui, mais ça c'est classique. De temps en temps, on en récompense un pour avoir un alibi, mais effectivement,
non, mais il y a très très beaux livres. Enfin, il y a des éditeurs dont on parle nous heureusement souvent, mais qui sont jamais dans les listes. chez les petits éditeurs. Jamais, ça n'arrive jamais.
Ah oui, mais parce que les membres des jurys, soit appartiennent à des maisons d'édition, enfin appartiennent, travaillent.
Non, vous l'avez dit.
Non, mais ce sont des, sont eux-mêmes éditeurs et, oui, et ça, voilà, donc il y a quelque chose de très humain là-dedans. Ouais. Soit sont, soit appartiennent à des rédactions dans lesquelles on traite un peu en priorité les livres des grandes maisons d'édition, précisément parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des prix, etc. Enfin, il y a une espèce de cercle vicieux qui fonctionne comme ça. Et puis par ailleurs, enfin, il faut pas non plus s'imaginer qu'un livre, parce qu'il est publié dans une petite maison d'édition, il est forcément meilleur.
On n'a pas dit ça. On dit qu'il y a aussi de très grands livres chez dites petites maisons d'édition. C'est ça que je voulais pointer.
Bon, ça, j'en suis
pour en dire quelques mots un peu rapides, on refera un petit salon comme on les faisait régulièrement en dernier, peut-être sur ces différentes questions dans les semaines qui viennent. Alors, je ne l'ai pas redit, mais Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel, publié chez Gallimard, a donc reçu le prix Médicis. Et on conclut avec le jeu de la dispute. Là, il y a les prix aussi à gagner, des cadeaux. Hier soir, quelle était la question et quelle est donc la réponse qu'il fallait donner ? Grégoire Di Fiore va nous le dire.
Pour quelle raison les Hells Angels ont marqué le festival d'Altamont en 1969 ? Et la réponse était en raison de l'assassinat d'un spectateur.
Oui, ce qui est quand même, ça fait un livre pour Génada, on verra ça. À gagner ce soir des places de cinéma pour voir l'un des films de la rétrospective d'Henri-Georges Clouzot. On en parlera nous demain dans la dispute. Quelle est la question, Grégoire ?
Qu'a été reproché à Clouzot concernant son film Le Corbeau ?
On va parler du Corbeau demain. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Tout cela à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur laquelle vous pouvez réécouter les émissions, notamment les autres émissions consacrées aux livres dont nous avons parlé ce soir, puisqu'il y avait déjà eu des disputes sur ces livres-là. Et puis vous en profitez pour vous abonner, bien sûr, au podcast de la dispute. Demain, 19h, dispute cinéma. Vendredi en public du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio. On vous attend. Donc tous les vendredis, je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Florence Colombani et Lucille Como. À notre affiche, je l'ai annoncé plusieurs fois, Clouzot, l'essentiel. C'est un coffret qui réunit les œuvres majeures du cinéaste en version restaurée. Nous parlerons du film Borg McEnroe de Janusz Metz et de We Blew It, documentaire de Jean-Baptiste Toré.